notre cerveau est façonné par la langue maternelle. C'est ce qu'ont découvert deux ethnolinguistes, donc qui étaient à la fois anthropologues et linguistes, Edward Sapir et Benjamin Lee Whorf. Alors, Benjamin Lee Whorf, qui était un ingénieur et un anthropologue, et qui était l'élève d'Edward Sapir, s'est rendu compte que, par exemple, dans les langues Hopi, ou les langues Apache, la langue Hopi, la langue Apache, il y avait des temps qui n'existent pas. On ne parle qu'au présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et donc, il s'est rendu compte que la langue avait structuré le cerveau des Hopi au point qu'ils n'avaient pas la même relation au monde. Et ça a donné une autre hypothèse, c'est le relativisme linguistique, c'est-à-dire que la langue maternelle façonne notre cerveau, mais on pourrait dire aussi que la discipline que nous exerçons jour après jour façonne notre cerveau. Comment en sortir? Eh bien, dans la complémentarité. C'est-à-dire qu'il faut s'obliger à sortir de sa discipline pour voir le monde autrement. Alors, dans ses pensées, Blaise Pascal nous dit « Le contraire de la vérité n'est pas l'erreur, mais l'oubli de la vérité contraire. » C'est très profond parce que dans son secteur, on est sûr d'avoir raison, mais en dehors de ce secteur, on voit peut-être une vérité complémentaire de la nôtre qui ne va pas forcément nous donner raison. Donc c'est un appel à la pluridisciplinarité ou la transdisciplinarité qui n'est pas simplement un caprice intellectuel, mais qui est une nécessité pour voir le monde dans sa complexité, dans sa globalité. Quand on est en mesure de manier différentes disciplines, on n'est pas obligé d'être un spécialiste, mais d'avoir une culture, ce qu'on appelle la transdisciplinarité, eh bien on a un autre rapport au monde. Alors une autre phrase clé qu'on pourrait mettre en avant, elle est due à un double prix Nobel, Linus Pauling, qui a le prix Nobel de chimie, le prix Nobel de la paix. Il nous dit la vie ne réside pas dans les molécules, mais dans les relations qu'elles établissent entre elles. Donc un savoir où il n'existe pas d'autres disciplines qui pourraient donner lieu à un contre-pouvoir de cette même discipline est un savoir mort, puisque la vie d'une discipline, ou la vivification d'une discipline, c'est le fait qu'elle puisse établir des relations avec d'autres disciplines. Alors ce que je vous dis, vous voyez, on arrive progressivement à quelque chose qui est l'outil logique pour prétendre tendre vers l'universalisme qu'on n'atteindra jamais, mais on tend vers. Et le vrai savoir unitaire, ou le vrai savoir unifié, le savoir de l'un, ben ça passe par justement cette logique, ce bon sens, qui est si difficile à mettre en place à l'université, parce que vous comprenez bien que dès qu'on est dans une discipline, notre cerveau, déjà façonné par sa langue maternelle, il est encore plus par cette discipline qu'on a étudiée. Et au bout d'un moment, sans s'en rendre compte, on devient quelqu'un qui va voir la réalité avec un champ très limité. Donc, théorème de Kerr-Gödel, aucune discipline n'est une discipline absolue. Chaque discipline est relative. Chaque discipline a besoin d'un contre-pouvoir. D'ailleurs, moi, je ne crois pas à une forme de démocratie sans contre-pouvoir. Regardez ce qui se passe quand une discipline devient une discipline phare. Elle n'a plus de contre-pouvoir. Vous avez vu ce que ça peut donner, par exemple, pour la chimie, il en est de même pour la politique, l'économie. Un autre concept important, elle est due à un monsieur dont le parcours est très intéressant, il s'appelle Georges Debreu. Au départ, c'est un physicien qui fait sa thèse en France auprès de Marie Curie.